Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour Marie Marquet.
Bonjour Yves.
Tu es ici pour nous présenter ce dimanche 15 juillet à Sainte-Croix le festival Indigo, si on peut appeler ça un festival.
Alors oui, en fait, ça s'appelle Jour de Bleu. Et donc, ce sera dimanche 15 juillet de 10h à 17h. Et l'idée, c'était de réunir les gens autour d'une couleur, puisqu'il s'agit en fait d'un lieu où on a entrepris de mettre en route un jardin de plantes à teinture. Et donc, c'est le premier événement autour des plantes tinctoriales. Donc là, ce sera un événement uniquement consacré au bleu.
Et on pourra y voir quoi, ou juste à cette journée?
Alors l'idée, voilà, c'est justement qu'on va monter à partir de plantes à indigo des grosses cuves de teinture, qui seront donc des cuves de bleu. Et autour de ces cuves, on fera des petits ateliers qui seront des ateliers de décor pour textile, donc un peu de sérigraphie. Des décors en réserve chez Bory, des tampons d'impression. Et donc les gens pourront venir et essayer ces techniques de décor et ensuite teindre des petits textiles dans la cuve de bleu. Ensuite, il y aura aussi une petite expo, des textiles que les personnes qui sont venues pour monter avec moi cette journée auront apporté, donc des tissus traditionnels ou des créations artistiques textiles contemporaines avec du bleu, avec de l'indigo dessus. Et puis il y aura aussi un film dont on verra les minutes, qui est un film qui va sortir bientôt. Donc en avant-première, on aura cette petite présentation du film qui a été réalisé par deux femmes, Isabelle Brouillet et Patricia Gérimont, qui sont toutes les deux des spécialistes, l'une des teinturières à Bamako et l'autre de teinturière en Pays d'Ogon. Et elles ont fait un film qui met en parallèle une pratique traditionnelle et une pratique plus contemporaine autour de la teinture au Mali. Voilà, il y aura donc cette expo, ce film, des petits ateliers, la cuve de bleu, et puis des choses à grignoter sur place, avec l'association Antilis qui viendra pour faire des choses à manger. Et ça durera jusqu'à 17h, heure de l'apéro musical. Voilà. Ensuite, on pourra éventuellement, si chacun amène de quoi, partager un apéro à ce moment-là. Voilà.
Et j'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup d'artistes invités ou de personnes qui sont spécialisées dans le textile ou la teinture. Tu peux nous en parler un peu de ces personnes?
Alors en fait, on a cette journée de bleu, elle vient clore en fait un masterclass que j'ai organisé donc sur le lieu de l'ancien monastère, mais avec des personnes qui viennent d'un peu partout en France et qui s'intéressent à la teinture ou aux plantes à teinture par différents biais. Donc il y a une productrice de plantes, des plasticiennes, un maître teinturier, Michel Garcia, qui est très connu. Donc cette anthropologue Isabelle Brouillet qui travaille sur les teinturières de Pays d'Ogon, une archéologue qui travaille au Pérou, une artiste textile qui est aussi dans le Diwa, Mireille Vallée, enfin donc un certain nombre de gens qui seront rassemblés pendant 3 jours, donc avant le dimanche, pour partager un moment technique d'échange autour des pratiques de la technique de teinture à l'indigo. On va extraire du pigment d'indigo à partir de plusieurs plantes à indigo. Et puis on va ensuite monter les cuves qu'on utilisera pour le dimanche et échanger des procédés entre nous. Et donc cette journée du dimanche, elle vient clore ce moment-là dans un temps de retransmission vers le public du Diwa. L'idée, c'était de ne pas rester enfermé sur notre pratique à nous, mais d'avoir aussi un échange avec le public.
Et pourquoi alors ce titre Indigo pour cette journée?
En fait, le titre, c'est Jour de Bleu.
Ah, jour de bleu. Ouais. Et jour de bleu, donc c'est une variété de bleu ou c'est
Ben,
particulièrement
jour de,
l'indigo?
donc l'idée c'était le titre, c'est jour de bleu, et donc après sur l'affiche effectivement c'est marqué indigo parce qu'en fait toutes les plantes qui sont donc en fait parmi les plantes à teinture il y a différentes catégories de colorants qu'on va trouver dans la nature et notamment donc des colorants qui vont donner du jaune, des colorants qui vont donner du rouge et des colorants qui vont donner du bleu. Et les plantes qui donnent du bleu, on les appelle de manière un peu générique des plantes à indigo. Et indigo, ce n'est pas le nom d'une plante, c'est le nom d'un type de composé qui va permettre d'obtenir du bleu. Et c'est le seul vrai bleu qui existe. Donc autrefois, ici en Europe, on n'avait qu'une seule plante à bleu qui s'appelait le pastel des teinturiers. Et quand on va sous d'autres latitudes, on a d'autres plantes à bleu. Donc là, au jardin de Sainte-Croix, il y a le pastel des teinturiers. Et il y a le polygonum qui est la renouée des teinturiers, qui est une plante d'Asie du Sud-Est. Après, il y a aussi d'autres plantes en Afrique, par exemple, toutes les indigofera, qui eux sont pas adaptables vraiment au climat ici, mais qui sont aussi des grandes sources d'indigo. Dans le monde, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de sources différentes de bleu qui vont être des sources d'indigo. Mais c'est toujours des familles de plantes différentes. C'est des plantes qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, à part qu'elles donnent de l'indigo. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, les procédés pour extraire le bleu à chaque fois, ils sont très complexes et ils sont partout les mêmes. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule façon d'arriver à extraire le bleu à partir de ces plantes, en faisant des cuves fermentées qui sont assez complexes à maîtriser. C'est des procédés assez techniques. Et donc, en fait, sous plein de latitudes et dans plein de cultures différentes, on a partout trouvé moyen d'extraire du bleu à partir des plantes à indigo, en montant des cuves, en maîtrisant le pH, la température, etc.
Et le bleu, donc, est-elle une couleur universelle? Toi qui as voyagé pas mal dans le monde, je crois.
Qu'est-ce que ce serait une couleur universelle?
Justement, comme tu parlais de techniques d'extraction
Ah oui, est-ce
qui
que
sont...
partout on fait du bleu? Bah,
Oui.
disons que. Je ne sais pas si je suis en situation là de vraiment généraliser. Je pense qu'il y a certainement des endroits où justement l'accès au bleu végétal, donc au bleu comme colorant, n'était pas aussi facile parce qu'il faut effectivement des plantes à indigo. Après, dans une grande majorité des cultures que je connaisse, en pays tempérés et subtropical et tropical, il y a eu des sources qui permettaient d'obtenir du bleu. Peut-être que les peuples qui ont été. Bon, j'ai peur de dire des bêtises. Je dirais que les peuples qui ont été peut-être moins proches de ce genre de sources, ce seraient les peuples des zones boréales, où là, je ne sais pas s'il y a des sources de bleu qui puissent servir. Voilà, donc, mais sinon, c'est une couleur. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc, ces techniques de cuve qui sont très complexes, une fois qu'elles sont maîtrisées, qu'elles ont été inventées, parce qu'en fait, la difficulté, c'est surtout de trouver la recette. Une fois qu'elle est connue, les gens la transmettent et du coup, ça devient plus difficile. Dans les pays où on fait du bleu, souvent, le bleu est très dominant. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de cultures, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, où le bleu prend une grande partie, est très dominant dans les couleurs des vêtements.
Je crois aussi que tu as eu une formation en archéologie, ce qui t'a amené à voyager en Afrique, en Asie, au Proche-Orient. Et c'est de par ce fait que tu as découvert aussi la teinture.
Oui, c'est ça. En fait, au départ, moi, j'ai travaillé à reconstituer des techniques anciennes. Donc, je m'intéressais à toutes les techniques qui pouvaient être connues à l'époque de ce qu'on appelle la proto-histoire. Donc, l'habitat, le métal, la poterie, etc. Et puis, j'ai cheminé là-dedans. Et en même temps, comme j'étais spécialisée sur l'histoire ancienne de l'Afrique, j'ai fait du terrain en Afrique et là j'ai découvert des techniques de teinture traditionnelles avec des plantes. Et ça m'a amené à me questionner sur les techniques textiles anciennes de l'Europe. Donc du coup j'ai toujours eu un cheminement un peu croisé entre des exemples qu'on appellerait ethnographiques et puis et une pratique de reconstitution de techniques anciennes d'après les vestiges qu'on retrouve pour l'Europe. Et donc ça m'a amené à affiner ma connaissance des techniques textiles et particulièrement des plantes à teinture. Et puis au bout d'un moment, je me suis vraiment spécialisée là-dessus. Et du coup, j'ai fait des collectages, disons en ethnobotanique, de savoir-faire anciens autour uniquement des recettes de teinture et des connaissances des plantes à teinture. Voilà. Puis après, je me suis mise à faire des choses plus appliquées, plus contemporaines, à travailler avec les teintures végétales, avec des stylistes, enfin à sortir, disons, de mon créneau de départ qui était plus de la recherche historique, etc.
Et pour cette journée, avec quel partenaire as-tu conçu cette journée Jour de Bleu?
Alors pour les jours de bleu, en fait, je me suis appuyée sur le jardin de plantes à teinture qu'on a mis en place au monastère de Sainte-Croix. Et c'est pour ça que ça se passe dans ce lieu. Donc en fait, ce jardin de plantes tinctoriales, il s'est fait, il a été mis en place en lien avec l'association Florémont. Donc on avait au départ, donc Grégory Lemoine avait reconstruit, remis en état le jardin botanique du monastère. Et depuis septembre, on a entrepris le projet d'ouvrir une nouvelle parcelle avec un jardin de plantes à teinture. Et donc ce jardin ensuite a été... là, c'est moi qui bafouille. Et donc un jardin de plantes à teinture. Et ensuite, à partir du mois de janvier, il y a Aurélie Labbé qui est tisserande et qui travaille sur les fibres textiles qui nous a aussi rejoints. Donc en fait, elle a monté un carré de plantes textiles à fibres. Donc en fait, il y a maintenant le jardin déjà restauré par Grégory Lemoine de plantes médicinales et aromatiques, le jardin de plantes tinctoriales et le jardin de plantes à fibres. Et tout ce projet, il est encadré par l'association Forêt-Mont en lien avec le monastère de Sainte-Croix, qui est plutôt un lieu d'accueil, mais qui a aussi un regard bienveillant sur la possibilité d'initier des projets sur le parc alentour.
T'es venu à cette visite des jardins qui avait lieu en mai, je crois. Et effectivement, on peut y distinguer des parcelles de plantes
Tinctorial.
tinctoriales
Ouais.
et aussi cette petite plantation d'Aurélie sur les plantes textiles. Et en même temps, très intéressant sujet par rapport aux connaissances que chacun apporte sur chaque plante. Et quelle est... Est-ce que, dans la perspective, vous pensez amener cette activité au su et à la connaissance de beaucoup de monde?
Alors les objectifs en fait de ce jardin. Donc en fait les choses se sont passées. Donc comme je vous expliquais, on a mis en place ce jardin avec l'idée de créer une collection de plantes qui soit en même temps un outil pédagogique pour les gens qui s'intéressent aux usages des plantes. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de lieux où on peut voir rassembler et les plantes textiles et les plantes à teinture dans le Diois. Il faut noter quand même que ce jardin il est en accès libre. Donc, il y a la possibilité de venir le voir de manière indépendante. Et ça, c'est, je pense, quand même assez précieux. Donc, on a mis en place ce jardin dans l'idée de faire un outil pédagogique, une collection. Après, on a chacun nos activités qui sont notamment, et pas uniquement, mais notamment des activités de visite et d'ateliers autour de nos thématiques. Donc, on organise toutes les 15 jours, le mercredi, des visites du jardin orientées sur les thématiques de chacun. Donc, ça tourne suivant les mercredis. Et ces visites sont suivies d'un atelier. Donc, il y a eu déjà un atelier encre, un atelier autour des fibres et un atelier autour des plantes toxiques qui a été animé par Robin Decle, qui est aussi dans l'association Florémont. Donc là, il va y avoir de nouveau une journée encre. Donc ce sera le mercredi 19 juillet, 18 ou 19, je ne sais plus. Et ça commencera à 15h. Donc il y aura pareil une visite et ensuite on fabriquera des encres végétales à partir des plantes. Donc voilà, cet espace, ce lieu, il sert à accueillir du public, à proposer des animations autour de nos spécialités. Après, donc dans le cadre de Jour de Bleu, c'est une activité, disons, qui touche une thématique beaucoup plus large que celle du jardin, puisqu'en fait, il s'agit un peu de botanique, mais aussi beaucoup de techniques, de pratiques textiles et d'aspects d'art plastique. Donc, c'est une journée qui va vraiment être une journée transversale avec plein d'autres intervenants. Donc, il y aura aussi le dimanche des personnes qui se sont mobilisées pour apporter leurs compétences. Il y a Stéphanie Caillot, qui est plasticienne, qui fait des aménagements un peu de type land art en feutre, qui va venir faire une installation. Il y aura Johan Puis Elver de Code B qui va venir pour faire de la sérigraphie et partager ses cadres et faire avec nous des réserves qu'on pourra ensuite imprimer des réserves sur le textile qu'on pourra ensuite teindre. Donc voilà, Aurélie Labbé sera aussi là pour tisser et montrer des techniques de tissage avec. On va en profiter de ses compétences en tissage pour faire ce qu'on appelle un ICAT, qui est une technique de tissage assez compliquée où on fait des décors par réserve nouée sur la chaîne du tissage. Donc voilà, Aurélie sera là. Et quoi d'autre? Voilà.
Ça sera déjà pas mal à voir, ouais. Tout ça. Et donc, une petite baignade en fin de journée?
Oui, alors après, le lieu se prête bien. Donc, effectivement, la seule inquiétude que j'ai, c'est qu'il fasse un peu chaud. Donc, les ateliers commenceront à 10h et jusqu'à midi. Ensuite, on pourra se restaurer grâce à la présence de Magali Ozanne avec Antilis, qui fera la restauration. Et ensuite, nous, on va continuer à être présents, à pouvoir montrer des choses. On va essayer de mettre le film au frais pour qu'on puisse se mettre à l'ombre. Et la Sûre est pas loin. Et donc, c'est aussi possible de faire un break, d'aller se baigner. C'est quand même un cadre qui est super agréable. Il y aura des visites du jardin mis en place donc, par l'association Forêt-Mont. Et on pourra aussi faire sécher tous nos textiles. Et l'idée, c'est de faire une grande installation avec tout ce qu'on aura fait pendant la journée, qu'il y ait quelque chose qui puisse se voir et se ressentir pour toutes les personnes qui passeront par là.
Ton travail est surtout basé sur la teinture de tissus, mais de quel type de tissus? De toutes sortes, que ce soit végétal ou animal?
Alors, les teintures, effectivement, en général, on distingue les deux types de fibres parce qu'on n'a pas les mêmes types de recettes. Par contre, le travail du teinturier, effectivement, ça va être justement de pouvoir teindre tout type de fibres, avec l'exception des fibres synthétiques, où là, on va avoir parfois des fibres qui se teignent très bien, mais où on peut aussi avoir des fibres qui sont vraiment réfractaires à la teinture végétale. Par ailleurs, moi, je dirais que ma compétence particulière dans le domaine des teintures végétales, ça va être que j'ai fait en fait beaucoup d'échantillonnage avec plein de plantes sauvages et que je m'intéresse, comme je m'intéresse beaucoup à l'aspect ethnobotanique et un peu recherche qu'il y a autour de ça, j'ai développé beaucoup d'échantillons. Je suis en train de mettre en place le volet production, ou en tout cas teinture à façon, c'est-à-dire teindre ce qu'on m'apporte et le rendre coloré. Donc où la personne amène la matière et elle me paye uniquement la transformation, ça s'appelle à façon. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place l'année prochaine. C'est vrai que pour l'instant, je suis plus sur les aspects recherche et pédagogie, transmission, même si j'ai déjà eu des périodes précédemment où j'étais sur des aspects de micro-production. Voilà.
D'ailleurs, en parlant de teinture, je crois que tu as publié un ouvrage sur ce sujet. Tu peux en parler un petit peu?
Justement, c'est un peu comme ça aussi que j'ai développé cet intérêt pour justement l'échantillonnage à partir du milieu naturel dans lequel on se trouve. C'est donc notamment quand j'ai écrit le guide des teintures naturelles donc, qui est paru chez Belin en 2011. C'était vraiment l'occasion rêvée pour faire un inventaire très systématique. En fait, l'intérêt pour moi d'écrire cet ouvrage, c'était qu'il y a, j'ai plein de prédécesseurs. Je ne prétends pas du tout être quelqu'un qui est pionnière, puisqu'il y a eu avant moi des gens comme Dominique Cardon, qui a été ma directrice de recherche pendant longtemps, comme Michel Garcia, qui justement vient pour ce séjour de bleu pour le masterclass, et d'autres personnes sur d'autres continents qui ont publié, qui ont récolté des recettes, qui ont transmis des choses. Mais donc pour cet ouvrage, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de faire quelque chose de très systématique, de faire des échantillons avec toutes les plantes, c'est-à-dire de tester tout ce qui avait été transmis, parce que beaucoup de recettes sont transmises, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de les tester. Et du coup, il y a des choses qui parfois ne sont pas vraiment vraies, ou en tout cas, il manque la recette pour pouvoir le faire. Et puis, on a aussi fait, dans le cadre de cet ouvrage, des tests à la solidité, des tests de solidité, lavage et lumière. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, les colorants sont très inégalement répartis dans la nature. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de brun, une famille qui renferme un certain nombre de plantes à rouge, les bleus, comme je vous disais, qui sont limités aux plantes à indigo. Et surtout, donc on va avoir des colorants qui peuvent être très solides dans certaines plantes et d'autres plantes qui vont avoir des colorants qui sont moins solides. Donc c'est plus ou moins connu par la tradition. On sait très bien qu'on a sélectionné certaines plantes parce qu'elles étaient solides. Et d'autres, on s'en est jamais vraiment servi autrement qu'à l'échelle domestique, parce qu'elles n'étaient pas très solides. Mais du coup, pour ce guide, c'était un peu l'idée. Donc du coup, j'ai tout échantillonné, on a fait des analyses de la résistance, et ça donne une base pour les gens qui ont envie vraiment de travailler avec ça dans le textile.
D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter ton atelier qui ressemble plus à un laboratoire,
Ouais.
de chimie.
Mais c'est vrai qu'il y a, en fait, c'est vraiment de la chimie organique, la teinture. Quand on fait des teintures, on peut travailler un certain temps de manière empirique, mais si on a envie d'être un vrai teinturier, les compétences, ça va être de pouvoir reproduire une couleur, de pouvoir avoir une idée de la bonne recette par rapport à chaque plante. Et après, moi, j'ai encore plein d'aspects très expérimentaux dans ce que je fais, et ça me plaît aussi. C'est pas si normalisé que ça, ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe. On va avoir des colorants qui sont à mordant, donc on va devoir utiliser des additifs qui vont permettre de faire le lien entre la fibre et le colorant, parce que les molécules de colorant s'attachent pas naturellement sur la fibre. On va avoir d'autres colorants qui sont, on appelle ça substantifs, donc qui se fixent naturellement sur les fibres. Enfin, on va avoir plein de choses, bien qu'on se serve exclusivement de matières d'origine naturelle et qui sont a priori aussi non polluantes, parce que le but, c'est pas d'utiliser des matières toxiques, mais bien qu'on se serve que de matières naturelles, on va avoir quand même plein d'enjeux qui sont de l'ordre de la chimie. Et c'est très passionnant, parce que c'est une discipline qui permet de croiser la botanique, la chimie, la pratique textile, la culture, l'art. Enfin, il y a plein de liens qui peuvent se faire, l'ethnologie, mais moi, j'aime bien.
Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Que si uruben que nete ya la iré, soco que se querufangas. Que si uruben que nete ya la iré, soco que se querufangas. Premas tristas di cara de fedo, alien chali buca dell'ano, al puca neve den mabano, peta paguesti trag di sedo, al puca neve den mabano, peta paguesti trag di sedo. Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Que si uruben que nete ya el aire, soco que se querufangas. Que si uruben que nete ya el aire, soco que se querufangas. Fremas tristas di cara de fedo, alien chali buca dell'ano, al puca neve del mabano, peta paguesti trag di sedo, al puca neve del mabano, peta paguesti trag di sedo. Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Ya mi cuteo que si una cocha iré, lo de estrella iré de carnavas. Que si uruben que nete ya el aire, soco que se querufangas. Que si uruben que nete ya el aire, soco que se querufangas. Fremas tristas di cara de fedo, alien chali buca dell'ano, al puca neve del mabano, peta paguesti trag di sedo, al puca neve del mabano, peta paguesti trag di sedo.
D'ailleurs, je crois que... Est-ce que tu as un site internet
pour... Oui, j'ai un site qui s'appelle teinturenaturelleaupluriel.fr.
Peux-tu me faire un petit historique du bleu, s'il te plaît?
Alors c'est vrai que le bleu, c'est une couleur qui, peut-être plus facilement que les autres couleurs, peut être suivie dans l'histoire. Parce qu'en fait, la teinture elle-même, dans son procédé, ce qu'on va faire ce dimanche, elle se fixe autour de la fibre et elle a plutôt tendance à la protéger. Ce qui fait que du coup, on retrouve des tissus très anciens qui sont teints en bleu. Les plus anciens tissus qu'on connaît pour l'Europe occidentale, qui sont teints donc avec ce pastel des teinturiers dont je vous parlais, ils datent de la période néolithique. Et très vite, on a des collections de textiles intéressantes, notamment les tissus de Hallstatt. C'est des tissus qui ont été retrouvés dans un site qui est une mine de sel. Donc, ils ont été pris dans la gangue de sel. C'était en fait les ouvriers qui travaillaient dans ces mines de sel à l'époque de l'âge du fer, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui portaient ces vêtements. Et on a retrouvé des fragments. Et il y en a les trois quarts qui sont teints en bleu. Ou en tout cas, c'est sur la plupart de ces textiles le bleu qui a été préservé, alors que les autres couleurs sont peut-être moins facilement visibles. Et donc, on a déjà ce témoignage de l'ancienneté du bleu de pastel pour l'Europe occidentale. Mais sur des sites plus anciens, on retrouve déjà des graines et même des fragments qui indiquent qu'on le connaît depuis vraiment longtemps, depuis les premiers textiles. Et après, ce qu'on peut dire sur le bleu aussi qui est intéressant, c'est que donc sous nos latitudes, ben, ce pastel, on l'a cultivé. À l'époque médiévale, c'était une plante qui a fait la richesse économique de certaines régions, donc notamment la région de Toulouse et la région d'Amiens. Donc c'est pour ça qu'on dit un pays de cocagne en fait, parce que donc pour transformer la plante et pouvoir faire des cuves fermentées avec, il fallait piler les feuilles de cette plante et en faire une espèce de pâte. Et cette pâte était conservée sous forme de boules et ces boules s'appelaient des cocagnes ou des coques. Donc d'où le nom pays de cocagne, ça veut dire un pays qui économiquement attire la richesse, quoi. Et parce qu'effectivement les régions ont cultivé ce pastel, mais en fait c'était une ressource économique vraiment très très majeure. Alors sur la cathédrale d'Amiens par exemple, il y a des représentations de ouédiers, parce que là-haut ça s'appelait la oued, et en fait c'est eux qui ont financé les mécènes quoi du portail de cette cathédrale. Donc c'est pour ça qu'ils sont représentés dessus, parce qu'ils sont ceux qui ont payé pour qu'on construise le portail de la cathédrale et qu'on l'ornemente. Après, ce qu'on peut dire aussi sur le bleu, dès l'époque médiévale, c'était vraiment des plantes qu'on a cultivées à grande échelle pour pouvoir se procurer du bleu. Et en fait, ça s'est interrompu avec l'introduction par le commerce à grande distance d'indigo sous la forme de fécule extraite de plantes à indigo, notamment des indigofera, tinctoria, d'Asie. Par les routes de commerce de la Méditerranée. Donc il y a eu un moment où en fait le marché à longue distance a permis que le pastel soit supplanté par des sources d'indigo exotiques qui donnent des bleus de même nature mais qui sont plus concentrés en colorants. Donc ça permet de parler aussi d'un aspect important peut-être de l'histoire du bleu qui n'est pas forcément le plus sympathique, mais qui illustre bien tous les paradoxes de l'histoire textile, c'est qu'en fait, parmi les produits de la traite, donc du commerce triangulaire, une des raisons pour laquelle les esclaves qui ont été emmenés d'Afrique de l'Ouest, une des raisons pour laquelle les esclaves ont été emmenés d'Afrique de l'Ouest vers les Caraïbes et l'Amérique du Nord, c'était justement de travailler dans les champs de coton, mais avant ça aussi, de travailler dans les cultures d'indigo. Et en fait, il y a vraiment un temps pendant lequel la production d'indigo dans les Caraïbes est très importante par le fait de l'esclavage. D'ailleurs, ce commerce à grande échelle et cette main-d'œuvre d'esclaves, elle préfigure un peu ce qu'est le commerce du textile dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a une dimension très très importante de ce commerce et des rapports de force qui peuvent être encore observables maintenant quand on va faire produire des textiles à bas coût et dans des très mauvaises conditions de vie pour les travailleurs concernés. Et pour les exporter à très longue distance, etc. Non, en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que l'indigo, à un moment, dans le commerce triangulaire, c'est-à-dire le fait qu'on a fait la traite des esclaves, ça a été notamment pour fournir de la main-d'œuvre pour les plantations d'indigo et la transformation du bleu. Après, pas uniquement, il y a eu aussi donc, le coton et ensuite la canne à sucre. Mais ça fait partie de ces produits de luxe qui ont eu un poids majeur dans l'économie mondiale. C'était ça que je voulais dire.
Et donc le bleu était réservé à une certaine...
Non, justement, c'est des moments où on commence à produire beaucoup, où on veut un peu, où il y a des rapports de marché. En fait, on commence déjà à être dans une logique de marché. Donc c'est pas forcément réservé à ce moment-là à des personnes plus riches, mais par contre c'est une logique économique où justement parce qu'on a une main d'œuvre qui est d'esclave, on peut se permettre de commencer à faire de la production très importantes et à être dans des rapports de force entre les puissances, que ce soit les Anglais, les Français, etc., sur une manière d'inonder le marché. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que sous Napoléon, il y a eu un moment, Napoléon a décidé de boycotter, de fermer nos frontières françaises aux produits anglais, parce que les Anglais, qui avaient une forte puissance maritime, avaient aussi drainé énormément de produits exotiques et des colonies, et du coup inondaient un peu les marchés. Et donc Napoléon a décidé de fermer les frontières à ce moment-là, à ces produits-là. Et du coup, ça a relancé en France la production de certaines plantes à teinture, dont le pastel et la garance, qui se sont remises en culture pour justement être en autonomie.
Et par exemple, l'histoire de l'art, est-ce que tu as des choses, des références concernant le bleu ?
Alors le bleu, ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de culture, on va donc le retrouver, il peut avoir une symbolique assez forte. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, il protège la fibre. Et donc si on regarde par exemple les tapisseries d'époque médiévale, on s'aperçoit que d'abord le bleu était beaucoup utilisé. Bon, il y a la dimension céleste, le manteau de Marie qui était souvent en bleu, etc. Donc c'est le lien avec le divin. Mais en fait, il y a une autre raison qui fait qu'on voit beaucoup de bleu sur les tapisseries médiévales, c'est que même l'herbe, souvent, y est bleue. Et ça, c'est un problème technique, c'est qu'en fait, les colorants qui sont associés au bleu pour faire du vert, qui sont généralement des flavonoïdes, des colorants jaunes, ceux-là, ils ont fané avec le temps, alors que le bleu est resté. Et donc, quand on regarde une tapisserie du Moyen-Âge, en fait, l'herbe est devenue bleue avec le temps.
Et c'est pareil pour les enluminures ou les illustrations ?
Alors, il y a eu des usages de pigments organiques, donc d'indigo, dans les enluminures, oui. Par contre, ils sont très stables. Et je pense que pour les autres sources de couleurs, on n'utilisait pas souvent des colorants organiques, mais plutôt des colorants minéraux, comme des ocres et autres. Et donc, du coup, le contraste est peut-être moins fort. Les enluminures tiennent peut-être mieux dans le temps. Par contre, alors après, il y a une autre chose qu'on peut dire qui est intéressante sur le bleu, c'est que dans pas mal de cultures, le fait d'utiliser, et ça c'est vrai pour toutes les couleurs en teinture végétale, c'est qu'en fait, la question de la tenue, de la solidité dans le temps, ça c'est vraiment des préoccupations très contemporaines, qui sont liées au fait qu'on vend les tissus, donc on est obligé d'apporter une garantie aux consommateurs, les gens ne veulent pas que ça se fane, etc. Mais dans la plupart des cultures traditionnelles où on utilise des teintures végétales, l'intérêt qu'on porte aux couleurs, c'est plutôt lié à leur symbolique et à la vertu qu'on accorde aux plantes qui sont source de cette couleur. Par exemple, dans le cas du bleu, il y a des exemples nombreux du fait qu'on teint en bleu avec l'idée que ça va soigner. On soigne notamment, on protège la peau, c'est antiseptique d'utiliser des plantes à indigo. C'est le cas bien connu des hommes du désert, des Touaregs, mais c'est aussi le cas dans plein d'autres cultures, en Arabie Saoudite, dans plusieurs cultures d'Afrique de l'Ouest et aussi en Asie, où vraiment le bleu est associé à l'idée de protection, mais au sens vraiment médicinal du terme. Les molécules composées colorées sont aussi des molécules qui sont bonnes pour la peau. Et puis après, il y a le côté vraiment symbolique. Donc dans plusieurs cultures d'Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun, en pays d'Ogon, on retrouve le bleu dans les rites funéraires. Un peu comme nous, on porterait du noir. Les gens portent du bleu et donc c'est associé au linceul et aux vêtements qu'on porte lors des rituels funéraires, enfin des cérémonies de deuil. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a vraiment une espèce de culture du bleu où on va retrouver les mêmes types de symboles pour l'Afrique de l'Ouest. Après, l'Asie du Sud-Est et la Chine aussi sont des grandes régions où le bleu a été beaucoup utilisé. Après, moi, j'ai moins travaillé sur ces secteurs-là au niveau de la symbolique. Mais il y a aussi une grande importance de cette couleur dans le vestimentaire et dans la culture de ces peuples. On teint même la peau, par exemple, les dents, la bouche. Il peut y avoir des tatouages qui impliquent aussi ces couleurs-là.
D'ailleurs, le tatouage, on a beau utiliser de l'encre noire, il finit bleu.
Oui, alors oui.
Rapport avec le bleu Non, tu n'en vois pas
Je ne sais pas, en fait.
D'accord, mais c'est une idée qui me passait comme
ça. Il y a des liens, en fait, entre tatouage et teinture. Après, moi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup pu approfondir, parce que c'est déjà tellement vaste, l'histoire des teintures. Mais c'est très intéressant. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des liens dans, déjà juste, avant d'arriver au tatouage, tout ce qui est teinture de la peau. Le fait de se faire des mains bleues, des pieds bleus, de même qu'on se peint les pieds au henné. Bon, il y a des liens entre les deux, bien sûr, évidemment.
Et même des liens aussi au niveau du type de décor. On peut faire les mêmes décors sur le tissu que sur la peau. Alors, pas forcément avec le bleu. Après, je connais plus des exemples avec d'autres couleurs. Mais en tout cas, il y a des liens entre les deux, entre comment on décore le corps et comment on décore le vêtement. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, d'ailleurs, l'étude du textile. C'est qu'en fait, on étudie aussi beaucoup les codes culturels et la représentation du monde. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, en fait, là-dedans, dans les vêtements traditionnels, évidemment.
Et as-tu vu le bleu de Yves Klein ?
Oui. Et pas du tout indigo, hein. Lui, alors,
non,
rien
tout à fait.
Voir.
Il est plutôt outre-mer, mais c'est un bleu
particulier.
Oui, puis
il est pas du tout de source naturelle. Moi, j'ai le gros défaut, en fait, de ne connaître vraiment que le côté végétal, quoi, de mon truc.
Et est-ce que tu serais la créatrice d'un type de bleu ?
Non, je crois pas. Moi, j'invente rien. Pour l'instant, j'essaye déjà de connaître tout ce qui a été fait. C'est pas mal de boulot. Ouais.
Voilà. Et en peinture, par contre, moi, j'en pratique et je sais que les peintres se méfient beaucoup du bleu en peinture parce que pour eux, c'est un vide. Ça crée un vide sur leur toile et ils s'en écartent beaucoup. Ça les effraie la plupart du temps.
Ah ouais.
Oui. Voilà, c'est une petite
pas
parenthèse.
Pas le bleu clair, pour Marc.
Non, le
il
bleu
est très
clair,
vibrant.
C'est plutôt du monochrome, mais ouais. Je parle de l'utilisation du
bleu. Du bleu, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Alors après, pour faire des peintures, ouais, moi, j'ai pas trop expérimenté. Donc du coup,
d'accord, mais c'était ouais. Plus par rapport au visuel.
Non, il y a un autre truc qu'on peut dire sur le bleu, par contre, qui n'a rien à voir, mais c'est de dire qu'en fait, le jean, au départ, peut-être qu'il y a plein de gens qui le savent, mais peut-être pas, en fait. En fait, le jean, au départ, c'est justement, ça s'appelle jean, parce que c'est bleu de Gênes, et c'était là qu'on faisait le bleu. C'était déjà en Italie et c'était parce que c'était de là que venait la technique qu'on avait utilisée pour teindre les jeans. Et les premiers jeans sont teints à l'indigo. Et après, on abandonne l'indigo. Donc comment ça s'est passé cette histoire ? Bon, à un moment, on a abandonné l'indigo d'origine végétale pour le remplacer par un indigo de synthèse. Mais en fait, les molécules qu'on a dans l'indigo de synthèse sont imitées des molécules qu'on trouve dans la plante et non pas... complètement différente. C'est parce qu'on avait le modèle de ce qu'il y a dans les plantes qu'on a pu concevoir à partir de sources d'hydrocarbures des colorants de synthèse qui reproduisent ces couleurs. Et du coup, ça amène à parler aussi justement des enjeux qu'il y a sur les teintures végétales où elles sont maintenant... Enfin, les teintures dans le monde maintenant sont toutes quasiment, à part dans les milieux traditionnels, faites à partir de colorants de synthèse. Ces colorants sont sur base d'hydrocarbures et leur rejet dans l'eau représente, avec les apprêts textiles, 20% de la pollution mondiale industrielle, la pollution industrielle de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un très gros enjeu à peut-être... ça ne veut pas dire forcément revenir aux pratiques traditionnelles, parce que les volumes de plantes qu'il faudrait pour teindre tout ce qu'on utilise comme vêtements seraient démesurés à cultiver. Mais en tout cas, avoir un questionnement sur la possibilité d'avoir des sources végétales en parallèle aux sources qu'on a déjà et d'améliorer les techniques de teinture, ça paraît être un volet intéressant et important pour mobiliser les gens sur le fait que bah, maintenant qu'on a résolu peut-être en tout cas au niveau de la conscience un certain nombre de questions par rapport à l'alimentation, je pense que le textile c'est quand même un domaine qui devrait plus poser question et qui devrait susciter plus de mobilisation au niveau de la façon dont on le consomme et de la façon dont on le produit.
Pour en revenir à cette journée du bleu, est-ce que les enfants seraient les bienvenus aussi ?
Oui, les enfants peuvent venir. On va... Alors après, pas tout seul, on ne prend pas en charge les enfants, on va être assez peu nombreux. Donc tout le monde doit être un peu en autonomie, en autogestion. Pensez à vos chapeaux, vos lunettes, etc. Et vous pouvez même prendre des gants et des tabliers si vous avez peur de vous tacher. Et vous pouvez prendre tous les enfants que vous avez envie, si vous êtes capable de les encadrer, pour les aider à faire aussi. Et avec plaisir, ce serait chouette que les enfants en profitent.
Oui, il y aura des ateliers pour eux, je suppose, des petites
activités. Les ateliers qu'on va faire, ils seront pareils pour tout le monde. Après, c'est accessible aux enfants et les enfants peuvent très bien faire aussi. Simplement, il faut qu'il y ait un adulte pour les aider, pour faire avec eux. Et nous, on ne sera pas assez nombreux pour faire avec eux. Donc, ce sera bien s'il y a des parents qui prennent leurs enfants avec eux ou des amis qui emmènent les enfants. Voilà.
Et je voulais revenir aussi pour cette affiche que je trouve très belle. Et c'est vrai que c'est une des rares affiches que j'ai appréciées ces derniers temps. Qui l'a faite ?
Merci alors pour les commentaires positifs sur l'affiche. Ben, c'est Johanna Autain donc, qui sera là aussi pour ce masterclass de bleu et qui est plasticienne. Et c'est elle qui a fait cette affiche. Elle l'a dessinée à la main. Et ensuite, c'est Johan Buiselvert de Côte-Bé qui l'a sérigraphiée. avec moi. On a fait ça ensemble, à la main aussi. Et il y en a même quelques-unes qui sont imprimées avec du pigment de pastel qu'on a mis au lieu d'utiliser des encres synthétiques de Johan. Mais on n'a pas osé faire un tirage complet là-dessus pour cette première tentative. Mais on a aussi ensemble envie de travailler plus sur les liens entre nos deux domaines d'exploration.
Elle exposera des œuvres, d'ailleurs.
Alors, Johanna, je crois pas, non. Elle vient plus pour participer et pour éventuellement participer à l'encadrement des ateliers. Et voilà, elle expose son affiche. Et voilà. Par contre, Johan, il vient aussi pour faire de la sérigraphie. Donc, tous les deux seront là.
Ah, donc il y aura un atelier de sérigraphie,
voilà,
sur place.
Mais sur le textile. Sérigraphie, sur le textile.
D'accord.
Hein, voilà. Avec, donc, code B. Ouais.
Merci Marie. Est-ce que tu as une préférence pour une petite chanson ou alors une petite œuvre musicale pour illustrer cette fin d'émission ?
Ben justement, donc en plus, on a la chance pour ces jours de bleu d'avoir prévu qu'à 17h dans l'apéro musical, on aura Aurélie et Vincent qui vont venir nous faire des chansons en lien avec notre journée. Et ben, peut-être qu'ils pourraient illustrer aussi cette émission.
C'était là.
Aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi mon amour, oui pour toi mon amour.
Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi mon amour, oui pour toi mon amour.
Acheter des chaînes